Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et pas seulement si vous êtes finlandais. Et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial célébrité et Bertrand Chameroy pour un écran de veille spécial rebondissement. Notre invitée a été surnommée la Castafiore par Françoise Sagan, la productrice et écrivaine Michèle Halberstadt qui va être avec nous pour parler de son nouvel ouvrage. Ça s'appelle Née quelque part et Angèle Châtelier va nous dresser son portrait musical. Et puis dans les indispensables, les 25 ans, les Pokémon, Clément Le Saffre nous en dira plus. Et puis trois spécialités paysannes, c'est Laurent Mariotte évidemment qui va nous donner ses recettes. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est l'heure Bertrand de votre écran de veille, de quoi vous nous parlez ce matin ?
De comédie, puisque pour assouvir nos envies d'action, d'émotion et de justesse, il y a le cinéma, mais bon, ils sont toujours désespérément fermés. Pour le reste, il y a la série Petit Secret en Famille sur TF1. C'est comme une pub pour yaourt, mais qui durerait très longtemps. La production, vous allez le voir, a fait appel aux meilleurs scénaristes de France, mais ils étaient sur répondeur.
Katia, dite Cathy, secrétaire de 27 ans, a pour meilleure amie sa cousine qui s'appelle elle aussi Katia. Une situation originale.
Oh là là, oui, oh là. C'est original et cocasse à la fois.
Parce moi, tombe, oui. Moi, je n'ai pas connu de Philippe. Hein.
Je sens que je vais vraiment me régaler devant cet épisode. Ah oui, parce que l'intrigue est digne de je ne sais pas quoi, mais un truc pas dingue.
Quand Cathy tombe enceinte d'Enzo en même temps que sa cousine de son mari Idriss, elle découvre que celle-ci veut donner le même prénom qu'elle à son bébé.
Sérieux ?
Leur bonne entente est mise à mal.
Si tu veux la guerre, tu vas la voir.
Wow, ça s'annonce tendu. Il y en a une qui veut donner le même prénom à son bébé que celui de sa meilleure amie et ils vont tenir 30 minutes dessus. Une prouesse. Scénario de qualité donc et acting de qualité également.
Alors, c'est bon pour ce soir ? Vous serez là tous les deux ?
Oui, bien sûr, surtout que ça fait un bail qu'on n'a pas dîné tous les quatre.
Et vous voyez ces essuie-glaces Bosch ? Ils sont offerts. Cathy profite donc de ce dîner pour annoncer qu'elle est enceinte. Voici la réaction de sa meilleure amie, un échange aussi naturel que le visage de Nicole Kidman.
C'est pas vrai, t'es enceinte ?
Oui, tu vas avoir un petit cousin ou une petite cousine, on sait pas encore. Mais c'est génial, c'est incroyable.
Ça me touche tellement que tu sois aussi heureuse pour nous.
Non, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, on s'émeut un peu plus quand même. Alors je vous épargne la scène où elle découvre que toutes deux veulent donner le même prénom à leur enfant pour arriver directement aux explications, le règlement de compte et la punchline.
Arrêtons cinéma. Au pire, nos deux enfants s'appelleront Sacha. Toutes les deux s'appellent bien Katia et ça n'a tué personne.
Bah non, forcément, toi tu l'as gardé ton prénom. Moi je te rappelle qu'à force on a fini par m'appeler Cathy.
Et bah au pire, on l'appellera Sushi, pas Sacha.
Bam ! Bien envoyé. Elle s'appelle Katia, mais ses parents auraient dû la baptiser Jiffy car elle a vraiment des idées de génie. Écoutez sa stratégie pour dissuader sa cousine d'appeler son enfant Sacha.
Je crois que j'ai une idée qui pourrait le faire changer d'avis. J'allais faire croire à Idriss que le fantôme de ma grand-mère Sacha était venu me hanter et m'avait averti que son prénom porterait malheur à l'enfant qui se nommerait ainsi.
C'est pas possible.
Je ne sais pas ce que prennent les scénaristes, mais s'il vous plaît, filez-moi la même chose. Alors attention, cette série, c'est un trampoline, nouveau rebondissement, encore plus tiré par les cheveux à ce niveau-là, c'est un lissage brésilien.
C'est pas possible.
Qu'est-ce qui se passe ?
Le compte d'Enzo est vide.
Alors je résume, je vous la fais très courte, sinon on va déborder sur la tranche d'Anne Romanoff, mais tout est vrai, c'est super simple, mais suivez bien. Le compte d'Enzo a été vidé après que Katia, la femme du mari de la meilleure amie de Cathy, qui est également sa cousine, a fait un virement correspondant au montant de l'héritage qu'elle venait de toucher dans le but de partir tous les deux en Italie. Adultère, que nenni. Il s'agissait d'une ruse. Enzo, qui galérait au boulot, s'est fait prêter de l'argent par Katia, l'autre donc, pas Cathy, pour payer les créanciers. Mais Enzo n'avait rien dit à sa femme pour ne pas l'inquiéter, car il avait honte. Pour détourner l'attention, il a donc inventé cette histoire de prénom commun des enfants en mettant Katia dans la confidence. Et les billets pour l'Italie, c'était simplement pour aller signer un contrat. Aspégique, peut-être.
Ils sont géniaux, les scénaristes.
Bien sûr, et je vous rassure, tout se termine très bien.
Quelques semaines plus tard, Cathy est soulagée. La société d'Enzo n'a pas fait faillite grâce à l'intervention de Katia. Les deux cousines ont fait la paix et décidé d'appeler leurs enfants Sacha. Toutes les deux.
Ah, nous voilà rassurés. Tout est bien, qui finit bien. Quant à moi, entre Petit Secret en Famille, Jackie Lave plus propre, Gym Direct et Maman est célèbre, je me dis que j'ai passé une bien belle semaine. Allez,
mais
bon
tellement.
Week-end.
Merci bon Bertrand Chameroy. Et on peut entendre, je dis ça, si vous voulez entendre ce qu'a dit Bertrand de Jackie Lave plus propre ou Gym Direct, tout ça est en replay. Eva, je me tourne vers vous, Eva Rock, lors du zapping du week-end. Quel thème réunit les programmes que vous avez choisis ?
C'est le Star System. Enfin, pour être tout à fait exact, le refus du Star System. Est-ce que vous connaissez Mae West ?
Bien sûr, immense actrice hollywoodienne. comédienne des années 50.
Alors moi, je ne la connaissais absolument pas, Philippe, et grâce à un documentaire d'Arte, donc j'ai découvert cette actrice américaine incroyable, une femme blonde, plantureuse, mais ce n'est pas une Marilyn Monroe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, elle a du charme, mais elle n'est pas très belle. Elle a une démarche un peu étonnante, son corps chaloupe quand elle marche. C'est une femme très drôle, décomplexée, hyper sexualisée, qui possédait une gouaille à nulle autre pareille. Elle n'avait peur de rien ni de personne, et surtout pas de la censure, même quand ses pièces jouées à Broadway étaient jugées vulgaires.
Elle a été reconnue coupable d'obscénité et de corruption de la moralité de la jeunesse, et elle a été envoyée à la maison d'arrêt. Plus tard, elle a dit que la seule chose qui l'avait dérangée, c'est d'avoir dû porter des sous-vêtements de coton.
Elle fut l'actrice la mieux payée d'Hollywood au milieu des années 30, une comédienne hors système qui traînait pas dans les soirées, pas de drogue, pas d'alcool, pas de connivence avec le métier, mais de l'humour et un don pour les aphorismes. Et bien sur Canal+, autre portrait d'un homme qui n'aimait guère le star system, Michel Platini. Formidable documentaire du footballeur à partir d'archives. Aucun commentaire, pas d'expert, des images et encore des images. Et se replonger dans sa carrière, c'est quand même revivre des années de foot où l'argent ne coulait pas encore à flot, où la communication ne régissait pas les relations. Écoutez sa déclaration au lendemain d'une défaite lors du premier tour de la Coupe du Monde en Argentine.
Peut-être il y a moins de motivation qu'un match de qualification de la Coupe du Monde. C'est étonnant, on dit on n'est pas rentré dans cette Coupe du Monde. On est venu pour participer à la fête. c'est mon avis et je ne me suis peut-être pas assez motivé. Je voulais aller en Argentine, mais je ne voulais pas aller faire des matchs.
Ah oui, tranquille.
Voilà, vous imaginez un joueur de l'équipe de France dire ça aujourd'hui. Voilà. Platini qui sourit et Platini qui déprime aussi. Vous l'entendrez dire à plusieurs reprises à quel point la notoriété lui a pesé. C'est un excellent documentaire qui est diffusé dimanche à 21h. C'est une pépite. Alors, seul regret, les sujets qui fâchent, comme l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ne sont pas abordés ni dans le film ni dans l'interview qui suit. Quant à Mae West, c'est sur Arte dimanche aussi à 23h.
Merci beaucoup, Eva Roque. Merci beaucoup, Bertrand Chamerois. Bon week-end,
bon week-end
à tous les deux. Dans un instant, notre invité Michel Halberstadt, mais d'abord musique, c'est le nouveau titre de Kylie Minogue. J'adore.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel. Feel my heartbeat. It's the same old feeling coming over me tonight. Me tonight. Feel it buzzing. Said I'm never gonna go, but tonight I think I might. Think I might. Give my heart. She ain't got the moves. We got something.
Real Groove, c'était Kylie Minogue sur Europe 1. Bertrand Chamerois adore Kylie Minogue. Il pourra la retrouver ce soir et vous toutes et tous en interview dans l'émission d'Émilie Mazoyer Musique dès 20h sur Europe. Dans un instant, la productrice et écrivaine Michèle Halberstadt pour Né quelque part, c'est son nouvel ouvrage.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Michèle Halberstadt.
Bonjour.
Vous êtes productrice de cinéma, la société L'Arp, quelle voix, qui produit et qui aussi distribue des films. Quelle voix, c'était pour votre voix. ARP. Auteur de nombreux livres, vous avez une autre vie à la radio, sur une radio de service public qui a disparu, Radio 7, pour laquelle Françoise Sagan, vous avez trouvé votre surnom.
La Castafiore.
Quelle voix, je le redis. Votre actualité, c'est ce nouvel ouvrage, Né quelque part, c'est chez Albin Michel. Gérard Lefort dans Les Inrocks parle de polar autobiographique. C'est un peu ça?
C'est tout à fait ça. C'est une quête que j'ai transformée en enquête.
Tout part de votre nom, et là je vous cite. Halberstadt est un nom composé de 11 lettres, 8 consonnes et 3 voyelles. Il pourrait rapporter au minimum 17 points au Scrabble. Il ne procure que des soucis dans la vie de tous les jours. Albert quoi? Ça s'écrit comment? Vous n'êtes pas d'ici. Et là, la première phrase du livre, c'est celle-ci. Vous écrivez que vous êtes la dernière des Halberstadt. En fait, non. Vous êtes productrice de cinéma. Et puis un jour, au Festival du cinéma indépendant de Sundance, vous découvrez une jeune bénévole chargée de scanner votre badge. Et là,
en fait, il faut vous mettre dans la situation. Donc, je suis loin de chez moi, je suis loin de mes problèmes perso et de mon nom de famille. Je suis en haut d'une montagne, dans le froid, à 22h. Et c'est un film que tout le monde attend depuis très très longtemps. C'est la première mondiale de ce film. Et il y a eu un problème technique, donc on est tous dehors en train de se geler parce qu'il fait très très froid. Et d'un seul coup, ils ouvrent les portes. Vous imaginez, c'est comme à Cannes quand on ouvre les portes. Ouais. Donc, vous avez 1500 personnes qui se précipitent et une armée de 10 bénévoles qui scannent vos badges. Et les badges à Sundance, c'est un peu comme les autorisations de voler pour les enfants non accompagnés. C'est une espèce de grand machin qu'on porte autour du cou. Et donc, je suis en train de parler à quelqu'un et je tends mon badge aux bénévoles. Et j'attends le bip pour avancer, quoi. Et puis, j'entends le bip, mais elle me tient mon badge. Donc, le cou est coincé, je me retourne. Et je vois une adorable adolescente avec des joues toutes rouges et une doudoune bleue qui ouvre sa doudoune, me montre son badge et elle s'appelait Anna Halberstadt. Et ça m'a terrassé.
Alors que vous pensiez être seule avec votre sœur et votre famille très très proche, parce qu'une grande partie, on va le voir, a disparu dans les camps. Mais surtout également, vous découvrez que c'était le nom du photographe officiel de Freud, qui était de surcroît son gendre. Il avait épousé sa fille Sophie. Comment avez-vous pu passer à côté de cette info?
Mais je ne sais pas, personne ne me l'a jamais dit. En fait, c'est une...
Et votre papa, il ne le savait pas?
Ben non, je crois pas. Il ne me l'a jamais dit en tout cas. Non, il n'en savait rien. Moi, c'est vraiment une fille, un jour, dans un salon du livre, qui m'a dit « Ah, je publie la biographie de Martha Bernays, la femme de Freud. Tu savais évidemment que une de ses filles avait épousé Halberstadt. » Non, je ne savais pas du tout. Je l'ai découvert parce qu'on me l'a dit.
Je précise que le nom vient d'une ville qui se trouvait en ce qui était autrefois l'Allemagne de l'Est, Halberstadt. Mm-hmm. En allemand, ça veut dire demi-ville. Il y a toute une quête où vous allez dans plein d'endroits. Je ne vais pas tout raconter. Je ne vais pas raconter comment ça se termine en Pologne, quoi qu'il y a des moments très, très savoureux. Il y a beaucoup d'humour noir. On est en plein boom des recherches généalogiques avec les sites d'archives en ligne, les analyses ADN aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que vous avez poussé la curiosité jusqu'à faire un test ADN?
Pas du tout.
Pour quelle raison?
Parce que c'est pas ça que je cherchais. J'ai pas besoin de savoir de quoi je suis constituée. Je vois bien quelles sont mes origines. Mais je voulais savoir comment je m'inscrivais dans le maillon de la chaîne des Halberstadt. C'est ça qui m'intéressait. Et savoir d'où venait ce nom et pourquoi mon père ne m'avait rien dit sur sa famille.
Il y a plein d'anecdotes sur Freud dans ce livre que j'ignorais. On apprend par exemple qu'il appelait son cabinet le magasin, que c'est à lui que sa fille a demandé des conseils pour ne plus tomber enceinte. Bonjour le complexe d'Oedipe.
Non mais surtout, c'est lui qui en 1920 écrit à un médecin en disant « C'est pas normal que les femmes ne puissent pas concevoir leurs enfants quand elles veulent. » Alors qu'on nous a toujours dit que Freud était un odieux misogyne, c'est évidemment pas le cas.
On sent votre fascination pour le personnage. Est-ce qu'elle datait d'avant le projet ou est-ce que c'est cette recherche généalogique qu'il a révélé?
Écoutez, moi, avant le projet, ma mère étant viennoise, c'était son idole, Freud. Donc, pour moi, c'était le vénérable docteur Freud que j'imaginais très hautain, assez antipathique et enfermé derrière son divan. Donc, je l'ai découvert en faisant cette recherche. Je ne le connaissais pas, au-delà du nom et des quelques livres de lui qu'on lit à l'école.
Plus le livre avance, plus vous parlez d'identité juive et vous rapportez notamment une phrase digne de Rabbi Jacob. Vous cherchez la tombe de Sophie Freud dans un cimetière.
À Hambourg.
Ouais.
Et il y a une dame qui est en charge des célébrités dans ce cimetière. C'est pour vous dire, parce que c'est un très... Il paraît qu'apparemment, c'est
il est immense.
Le plus grand cimetière d'Europe.
Il faut le nom, le plan, il faut même savoir où est située la tombe, sinon on la
trouve
pas. Ah bah
si on n'a pas la zone, c'est terminé. Et donc, j'ai expliqué que la fille de Freud était enterrée là. Enfin, ça a duré très très longtemps, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a en fait un autre cimetière adossé au premier, qui est le cimetière juif, ouais. Et que vraisemblablement la fille là, de Freud est enterrée là. Et je dis, ben, c'est peut-être là.
Ouais.
Et la dame en charge des personnalités me dit, Freud c'est juif. Voilà, c'est voilà. Salomon c'est juif. Quoi.
Mais évidemment, on est dans Rabbi Jacob.
C'est ça.
Donc, il y a des larmes, il y a du rire. Ça s'appelle Né quelque part, c'est signé Michel Halberstadt. Vous restez avec nous.
Avec joie.
Derrière et devant le micro, et c'est Angèle Châtelier qui va dresser maintenant votre portrait musical. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en direct, toujours en compagnie de Michel Halberstadt qui publie Né quelque part, c'est chez Albin Michel, c'est une sorte de quête, une sorte de polar autobiographique, comme disait Lefort. En exergue du livre, trois petits vers de Maxime Le Forestier. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Une chanson qui vous raconte à sa manière, et justement, c'est le moment de votre portrait musical signé Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe et bonjour Michel Halberstadt.
Bonjour.
Alors j'aimerais commencer ce portrait par une phrase que vous avez dite. La musique ne me console pas, elle m'aide à vivre, c'est mon oxygène. Et les artistes qui vous permettent de respirer sont nombreux, mais un genre de musique se démarque et habille votre vie, c'est la soul de Marvin Gaye à Aretha Franklin.
Oh,
Michel Halberstadt, la musique est votre oxygène, mais vous aimez danser aussi. Tout vous va tant que la musique est bonne. Enfin, quand vous êtes en soirée, quand même, c'est plutôt sur la soul hein, que vous vous déhanchez encore et toujours. Sur Prince aussi, c'est d'ailleurs l'un des derniers disques que vous avez acheté. Mais alors, ce qui peut expliquer ce goût pour la danse, c'est un souvenir que vous avez très doux. Très intime avec votre père à qui vous rendez hommage dans votre livre. La musique, ce n'était pas vraiment son truc, mais ce qui vous a relié, c'est la valse. Lorsque vous étiez petite fille, il vous a appris à la danser sur la valse de l'Empereur de Johann Strauss. Il vous arrive de nouveau de danser la valse parfois ?
Jamais.
Jamais.
Quand j'entends cette valse.
En plein dans le mille, Angèle.
Et quand j'entends cette valse, j'ai des frissons vraiment.
Je suis toujours.
Ah ouais, ouais.
Alors, il y a la soul dans votre vie, mais la musique classique aussi, on l'entend grâce à ce souvenir, mais aussi parce qu'elle vous permet de vous apaiser et d'écrire. Vous écrivez en musique d'ailleurs, mais toujours sur du piano, Schubert, Schumann ou Chopin.
C'est parce qu'il n'y a pas de parole que ça vous aide à écrire ?
Non, c'est parce que j'ai besoin d'un espèce de tapis musical. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des concertos où ça monte et ça descend. Mmh. Ça m'aide vraiment à me concentrer. C'est-à-dire que j'entends ça et je rentre en moi, j'ai l'impression de descendre, faire de la plongée.
Ouais, c'est de la musique à laquelle il ne faut pas être attentive.
Oui, mais elle vous enveloppe en même temps.
Exactement.
Voilà.
C'est un très joli mot, oui, enveloppé, c'est vrai. Enfin, Michel Halberstadt, je vais finir par le début, à savoir votre naissance à Paris, que vous n'avez jamais vraiment quitté.
Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Cependant, vous dites que Paris est mieux servi au cinéma qu'en chanson.
Mais oui, parce que quand je pense à New York, il y a plein de chansons qui me viennent. Il y a Alicia Keys, il y a Billy Joel, enfin, il y en a plein. Ouais. Il y a New York, évidemment. Paris, elles sont anciennes, les chansons. Il n'y a pas de belles, modernes chansons sur Paris, je trouve. Bon, il y a les Brigitte qui ont fait une chanson sur Paris, mais je trouve que, bon, on peut mieux faire, elles ont mieux fait. Il y a Paris-Séchelles, je crois, c'est ça ?
Il y a Zaz aussi.
Oui, mais bon, il n'y a pas New York State of Mind, voilà, qui est un truc à
c'est
tomber
Julien Doré,
par terre.
Paris-Séchelles.
Oui, c'est ça. C'est bien, mais ce n'est pas ça, quoi. Oui. Ce n'est pas Revoir Paris de Trenet, pardon, mais il était plus doué que ça.
On est d'accord.
Alors, en ce moment, c'est plutôt à 18h que Paris s'endort, hein, mais nous retrouverons bientôt tout ce que vous appréciez dans Paris, Michel Halberstadt. Ses pavés, son air, son ciel, ses monuments et ses terrasses, et ça, des deux côtés de la Seine.
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi. Seul sous la pluie.
parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard.
De traîner à Strauss en passant par Chopin, Dutron et Prince, c'est un bon portrait.
Ah oui, c'est tout à fait juste.
Vous êtes très attentive aux musiques des films que vous distribuez. Est-ce que vous êtes déjà...
Je suis obsessionnelle de la musique des films que je distribue et surtout qu'on produit.
Ouais.
Ça, c'est toujours mon rayon. Et d'ailleurs, mon mari me devient dingue parce que chaque fois qu'on est au cinéma, dès qu'il y a un air que j'aime, je sors Shazam et mon mari me dit range ton téléphone. J'ai dit mais c'est pour Shazam.
Et
par exemple, hier, j'ai vu sur Salto la série de 5 films qu'a fait Steve McQueen, que je vous conseille, qui est absolument sublime.
Dont on a parlé ici.
Ben voilà, et ben la musique est à tomber à la renverse. Hier, il y avait je regardais le troisième film, je ne sais plus comment il s'appelle, Light and Sound, je ne sais plus, en tout cas le troisième. Et il y a du Al Green et du Marvin Gaye, mais j'étais au paradis, vraiment.
Voilà, je crois que ça s'appelle Small Axe, si je me souviens bien.
Oui,
merci
Small
beaucoup,
Axe, c'est
Antoine
l'ensemble
Genton. C'est longtemps, la série. Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
Merci, bon week-end.
À lundi, dans un instant, notre premier indispensable, c'est Clément Le Saffre, avec l'anniversaire d'une licence mythique. Ça commence par POC et ça finit par MON. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Halberstadt, c'est une quête de ses parents, de son nom. Né quelque part, c'est chez Albin Michel, un voyage, non pas initiatique, mais dans toute l'Europe pour retrouver ses origines. Une quête journalistique, presque, vous avez été journaliste.
Bien sûr.
Rédactrice en chef, emblématique du mensuel Première à la grande époque, comme on disait à l'époque. Ouais. Vous pensez quoi de ce qui est devenu la presse cinéma ? Et la critique cinéma d'aujourd'hui, vous qui êtes désormais productrice et distributrice.
Bah c'est comme partout, il y a des très bons et des pas bons. Voilà, il y a des flemmards qui racontent les films et qui vous disent j'aime pas. Mmh. Et puis vous avez des gens, mais de moins en moins nombreux, c'est vrai, qui vraiment analysent un film et vous donnent envie d'aller le voir.
Je veux dire par là, parce qu'on a l'impression qu'on a assisté, je parle pour moi, à la disparition à petit feu de la critique cinéma remplacée par la critique et les avis sur Internet. Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça change rien ?
Bah, c'est comme l'époque, quoi. C'est j'aime, j'aime pas, oui, non. C'est un peu, voilà, on est allé vers le manichéisme, la rapidité, le zapping, enfin voilà. Ça a toujours existé, je pense. Mais c'est vrai que je pense aussi que c'est parce que dans les médias, il y a moins de place laissée à la critique. Les journaux, il y a moins de place pour... Vous savez bien, enfin moi, ça a commencé, je vais vous dire, je sais exactement quand ça a commencé, quand on a sorti Rosetta, qu'on a produit, mon ancien journal, Première, le journaliste a appelé en demandant combien de copies on sortait. J'ai dit pourquoi ? Il m'a dit, la taille de la critique dépend du nombre de copies. On sortait sur 15 copies, j'ai dit 100, j'ai menti aveuglément et on a eu une belle critique.
Je vois très bien ce qui vous agace et en même temps, moi qui ai aussi été journaliste, c'est toujours bien de parler des choses qui concernent les gens et non pas de parler quelque chose qui concerne une toute petite élite qui habite entre les Invalides et Saint-Germain-des-Prés.
Sauf qu'on venait d'avoir la Palme d'Or, donc quand même, je pense que ça suffisait à peut-être donner un peu d'espace.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que petit à petit, il a fallu être efficace dans ses critiques. Voilà. Mm-hmm. Et le problème, il me semble, c'est qu'on perd beaucoup de place à dire du mal des films. Il faudrait mieux choisir les films qu'on aime le plus et leur donner de la place pour donner envie aux gens.
Là-dessus, on est d'accord et c'est le règne du troll. Dans les années 70-80, il n'avait pour dire que les critiques de cinéma étaient des vendus ou alors des idéologues et que rien ne valait le bouche à oreille. Et là, on arrive avec le règne d'Internet où ce n'est plus que du bouche à oreille et on a l'impression que ce n'est pas mieux qu'avant.
C'est pas mieux qu'avant parce qu'on a l'impression que les gens qui écrivent écrivent pour se faire remarquer et on se fait plus remarquer en disant du mal que du bien. C'est plus facile de briller et d'être cynique et ricaneur que de briller en disant c'est magnifique sans ennuyer les gens. C'est très très difficile dire du bien et d'être enthousiaste.
Bien sûr, je citais Gérard Lefort et tout le monde se souvient des titres terribles qu'a fait Gérard Lefort.
Oui, mais personne ne se souvient que quand Gérard Lefort aimait un film, il vous mettait les larmes aux yeux tellement ses critiques
bien
étaient
sûr,
belles.
Ce qui est dingue, ce qui est dingue, c'est que ce qui reste, c'est les titres horribles. Je me souviens de Chronique d'une merde annoncée.
Bien
c'est
sûr,
un
évidemment.
Film de Rizzi, si je me souviens bien.
Oui,
et
oui.
C'était ce titre, c'était ce dont on se souvient.
Absolument.
Donc le troll
c'était
était déjà
mais on s'en
à
souvient,
sa
absolument.
Manière. C'est le film de qui
Je ne sais plus comment il s'appelle.
On
J'ai
va retrouver.
C'est un espagnol.
On va retrouver. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Tout à
bonjour.
Fait autre chose, vous ne jouez pas au Pokémon, Michel Halberstadt.
Ah non, je n'ai jamais joué, non.
Et vos enfants
Non, j'ai échappé à ça. Ils ont eu d'autres défauts, genre les Tamagotchi, des trucs comme ça.
Votre porte-monnaie a
mais...
échappé à ça, surtout.
Ah oui.
Ouais. Votre banquier vous remercie. Et Clément, votre indispensable du
exactement.
Jour sent bon la nostalgie.
Ouais.
C'est un anniversaire très attendu par ceux qui attendent cette année, d'ailleurs.
Bah exactement, parce que ceux qui, comme moi, quand on leur demandait à l'école ce qu'ils voulaient être plus tard, bah répondaient le meilleur dresseur, ceux qui, comme moi, rêvaient d'avoir un Pikachu comme animal de compagnie, ceux qui, bah finalement, comme moi, étaient fans de Pokémon. Voilà, je chantais ça à tue-tête quand j'étais gamin, le générique mythique du dessin animé. Pokémon fête ses 25 ans cette année. À l'origine, c'était un jeu vidéo Pokémon rouge et vert, sorti en février 1996 au Japon sur Game Boy. On incarnait Red, un petit garçon qui rêvait de devenir donc le meilleur dresseur de Pokémon et qui se lançait sur les routes pour attraper toutes ces drôles de créatures. On laissait partir un gamin de 8 ans à l'aventure comme ça, il n'y avait pas de souci. On découvrait, nous, Pikachu, Salamèche, Miaouz, Carapuce, Bulbizarre, Mewtwo, une centaine de monstres à capturer avec des Pokéballs. Pas sûr que le WWF approuve, mais nous, on s'amusait comme des fous. Et à 25 ans après, bien, Pokémon est toujours aussi culte.
Et alors là, Michel Halberstadt m'a passé un post-it, elle me dit « On y joue encore aujourd'hui ?»
Eh ben ouais, figurez-vous que oui, j'étais le premier surpris, mais les Pokémon sont encore les stars des cours de récré. Les jeux vidéo continuent de cartonner, il y en a eu une dizaine depuis 1996. Aussi les dessins animés et bien sûr, ce que j'ai en main, les cartes à jouer hein, avec le bord jaune. Hein, tous les enfants tannaient leurs parents pour qu'ils leur achètent des paquets.
Je m'en souviens, c'était vrai. J'en ai acheté des paquets. Maintenant c'est fini, mais j'en ai acheté des paquets
et
comme ça.
Et ça coûtait un petit paquet d'argent aussi au passage. C'était vrai ça il y a 25 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Jean-Christophe Ten, c'est le gérant de la boutique Ultra Jeux, spécialiste des cartes à jouer dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis allé lui rendre visite et il m'a dit que Pokémon était toujours une des licences les plus populaires.
Les chiffres continuent de grimper, on a toujours des bonnes ventes, c'est un engouement mais c'est cyclique. C'est des rotations de 2-3 ans où vous avez une augmentation des ventes Pokémon, ça rechute, ça remonte, ça rechute, ça fait 25 ans que c'est comme ça que ça marche. Ce sont des gens qui ont collectionné Pokémon jeunes enfants et qui, une partie de ces gens-là, ont continué. Et c'est toujours une bonne valeur aujourd'hui.
Et ça prend des proportions folles hein, avec les collectionneurs de cartes. La semaine dernière, on a battu le record de vente pour une seule carte Pokémon, un Dracaufeu, première édition, vendu aux enchères sur eBay. À votre avis, combien la carte est-elle partie?
Je sais pas, 50, 100 dollars.
Une idée? Oh, moi, je dirais 500 dollars. Bah,
vous êtes
fous.
Très, très loin du compte. 500 000 non dollars.
Pardon,
500 000 dollars.
Non, mais c'est le prix d'un appart.
Carte.
Non, mais c'est pas possible. Ces gens sont dingues.
Non. Exactement. Non, je
mais
vous
franchement,
assure.
T'as le choix. T'as un appart et une carte Pokémon. Tu prends la carte Pokémon. Pardon de vous tutoyer, mais ça me rend fou. Et on voilà. Est chez les dingos. Bah,
c'est pour possible. Ça que j'ai envie de dire à nos auditeurs, s'il vous reste des cartes Pokémon dans vos placards, fouillez bien. Ça vaut peut-être de l'or.
Et c'est quel pays? Dans quel pays là,
ça s'est vendu aux États-Unis.
S'enrichir, donc c'est bien pour les nostalgiques. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour les 25 ans des Pokémon?
Ouais, il y a plein d'événements. Il y a notamment eu déjà samedi dernier un concert virtuel du rappeur Post Malone, 15 minutes au cours desquelles son avatar a chanté en 3D entouré de Pokémon. C'était un spectacle assez sympa avec une chanson spécialement composée pour l'occasion. C'est un remix d'Only Wanna Be With You de Hootie and the Blowfish, une vieille chanson avec des bruitages des jeux Pokémon. Sometimes I wonder if it'll ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy. C'est pas lui le seul artiste mobilisé pour les 25 ans de Pokémon. Katy Perry a elle aussi préparé une chanson spéciale. Elle s'appellera Electric, un hommage à Pikachu. Ça sortira à l'automne. Il y aura une compilation carrément spéciale pour les Pokémon.
Alors il y a les chansons, mais les fans veulent des jeux.
Eh ben, ils vont être servis. Il y aura d'abord un remake de Diamant et Perle. C'est un jeu qui est sorti en 2007 sur la Nintendo DS. Ça s'appellera Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. C'est du classique hein, avec les petits personnages et la vue du dessus. Objectif, devenir encore et toujours le maître Pokémon. Le remake sortira en fin d'année sur la Switch. Et puis l'année prochaine, Pokémon aura droit à son tout premier jeu en monde ouvert, Pokémon Legends Arceus. Au lieu d'avoir la vue du dessus et les petits graphismes pixelisés, on sera à la troisième personne dans le monde des Pokémon. On pourra se faire attaquer par des Pokémon. Et c'est alléchant, hein, tous les enfants, moi le premier, en ont rêvé quand on était petit.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Et alors, Antoine Genton m'a rapporté le papier de Libé dont je parlais. J'étais pas loin, je disais Dino Risi, c'était Francesco Rosi. Je m'étais trompé d'une lettre, chronique d'une merde annoncée. C'était dans Libération, papier signé de Gérard Lefort.
À Cannes.
C'était en mai 1900, j'arrive pas à lire, 91. Merci beaucoup Clément. Dans un instant, on va parler cuisine avec notre indispensable Laurent Mariotte. Mais d'abord musique, c'est Gaëtan Roussel.
Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte. Quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout,
quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble.
Je me jette à ton cou, Gaëtan Roussel sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Laurent Mariotte avec trois bonnes recettes paysannes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Halberstadt, et cette semaine, Europe 1 fait salon chez les agriculteurs. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe, bonjour Michel.
Bonjour. Vous allez nous donner faim avec trois recettes paysannes à refaire ce week-end. Vous cuisinez, Michel Halberstadt ?
Pas du tout.
Mais d'abord, c'est
mais elle
très
bien faire les courses.
Mais je fais des courses, oui.
Ça, c'est important.
Tiens, vous allez faire les courses dans le monde paysan, parce que vous voulez nous rappeler la place du monde paysan au cinéma, avec des rôles de choix pour votre grand-mère.
Non, non, mais ça, c'est une ancienne introduction, ça.
J'ai
ça
dit
marche
d'accord.
Plus. On m'a ça dit marche on plus. Ça marche plus, on coupe, ça.
C'est, alors, c'est pas, quoi
on
le menu du jour?
On la fera un autre jour, Philippe. Le menu du jour, c'est simple, c'est une belle salade de pissenlit pour démarrer. J'étais sur mes terres vosgiennes hier, dans les champs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pissenlits.
Qu'est-ce que c'est bon?
Et ça, qu'est-ce que c'est bon? Avec une belle amertume, c'est croquant. Ça coûte pas cher, puisqu'on peut les cueillir, évidemment, en ce moment, avec l'arrivée presque du printemps, on peut dire. Donc, dans les Vosges, on les fait avec ce qu'on appelle une chaude meurotte. Vous savez ce que c'est la chaude meurotte?
Ça soigne facilement.
Ça soigne bien, ça soigne beaucoup, parce que c'est vrai que le pissenlit, vous avez raison, ça soigne, ça purge le foie. Il y a une belle amertume comme dans l'endive. La chaude meurotte, c'est une sauce à base de croûtons qu'on fait revenir avec un petit peu de beurre, des lardons, parce que dans les Vosges on met beaucoup de lard, et on déglace tout ça avec du vinaigre de vin rouge. Et vous arrosez votre salade de pissenlit avec cette chaude meurotte, et on peut même casser à l'intérieur un œuf cru, ou alors on met un œuf poché aussi qu'on peut mettre par-dessus, ça c'est délicieux, c'est équilibré, et je vous assure que c'est une belle rentrée dans le printemps.
Et alors ici, on ne trouve pas de pissenlit pour la salade pissenlit?
Alors on peut prendre de la frisée qu'on coupe en petits morceaux par exemple, ou de la trévise qui est une salade italienne, ou du radicchio qui est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver que la trévise. Mais toutes ces salades qui font partie des chicorées et qui ont une belle amertume, et une belle amertume digestive, parce que l'amertume elle a cette valeur-là en fait, de nous faire digérer aussi.
Ouais. Mais ce qui est très bien avec le pissenlit contrairement à la trévise, c'est que ça se trouve dans les champs. Pas la peine d'aller l'acheter chez le
exactement,
marchand.
Exactement, mais là ils poussent, ils sont tout tendres, c'est magnifique. Ouais.
Belle entrée paysanne. Le plat alors, quelle région?
Ah bah allez, dans le sud-ouest, si je vous dis poté du sud-ouest, vous me dites?
Rien.
Je le sais parce que je l'ai lu, mais je ne l'aurais pas trouvé. La garbure.
La garbure, bah oui, c'est magnifique.
Je
la garbure,
pas.
C'est une belle potée. C'était vraiment le plat quotidien des paysans gascons autrefois. C'est une espèce de soupe épaisse qui est faite avec du chou et puis les légumes du moment. La particularité de la garbure par rapport aux autres potées, c'est qu'on y glisse une cuisse de canard confite à l'intérieur. Voilà, ça vous parle. Ça c'est bon. Et on dit que pour que la garbure soit bonne, il faut que la cuillère tienne bien droite à l'intérieur. Vous voyez, tellement il y a de monde dans la marmite.
Ah bon, c'est compliqué. on met quoi dans la marmite alors?
Non, il faut s'y prendre la veille en fait. Vous faites tremper un talon de jambon de Bayonne avec des haricots secs toute
toujours.
Une nuit.
Moi, j'ai toujours un talon de jambon de Bayonne bien qui traîne chez moi. Je me dis, qu'est-ce que je vais en faire?
Je vais le faire tremper toute une nuit avec des haricots secs, des haricots blancs. Et le lendemain, vous épluchez, vous taillez les légumes du moment. Alors là, c'est de la branche de céleri, des carottes, du poireau, du navet. Vous les mettez avec, dans une marmite avec le talon de jambon, les haricots secs, de l'eau, vous portez à ébullition, une heure de cuisson. Pendant ce temps-là, vous faites blanchir du chou, parce qu'il faut du chou dans la garbure. Vous le faites blanchir quelques minutes, vous le remettez dans cette potée.
Chou blanc ou chou rouge?
Chou vert. Chou vert.
Bim.
Chou vert.
J'avais une chance sur deux.
Vous avez vu comment ils sont bien traités, les invités ici?
Le chou rouge, il peut déteindre, il peut colorer. Donc le chou vert, c'est pas mal en fait. Il va apporter un peu de chlorophylle. Et au bout d'une demi-heure, vous ajoutez là la fameuse cuisse de canard confite qui vous est chère, Philippe et Michel, ou une cuisse de doigt, un confit doigt par exemple. Et à nouveau, on prolonge la cuisson une demi-heure et vous servez ça avec des tartines de pain grillé sur lesquelles vous mettez un petit peu d'ail. Enfin, c'est délicieux ça. Voilà, ça c'est la garbure. C'est un vrai plat paysan. Il faut essayer ça ce week-end.
Il reste de la place pour le dessert?
En Normandie.
Ouais.
Un dessert rustique et normand, une petite tourgoule. Ça vous parle ça?
Non plus.
Bon, le riz au lait, ça vous parle? C'est un cousin du riz au lait, la tourgoule. On faisait ça dans les fours à bois des boulangers dans les campagnes autrefois. Quand le four à bois arrivait à la fin vraiment de son travail, on mettait les brioches et le pain. Et puis à la fin du travail, justement, on mettait cette tourgoule qui est un mélange de riz, de lait et d'épices avec de la cannelle et du sucre. On raconte qu'en Normandie, on aurait autrefois détourné un navire qui venait d'Espagne avec des épices. Et c'est pour ça qu'on met de la cannelle à l'intérieur. Et ça cuit longtemps. Ça cuit 6 heures dans le four à 120 degrés. C'est délicieux, ça, la tourgoule. Le riz, c'est un riz rond qu'on va mettre avec du lait cru. On est à la campagne, est dans le monde paysan, donc on prend un lait cru qui est un lait qui a du goût. 6 heures de cuisson. Et le riz, vous allez même plus le reconnaître. À la fin, on dirait presque une crème qui est parfumée avec ce sucre et cette cannelle. C'est délicieux.
Et j'imagine que la cuillère tient encore dans le truc.
Exactement.
Juste avant, Laurent, que vous nous donniez le programme des bons vivants, on a quelque chose pour vous, une petite surprise, ou plutôt de la part de la maman de Camille Combal.
Alors, maman, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui t'aime bien, d'autres que moi sur TF1?
Laurent Mariotte. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une façon de présenter, de discuter devant ses plats que j'aime pas, parce qu'il met jamais tablier.
On va lui dire: Lolo, faut un tablier, ça énerve ma mère.
Eh ben, Laurent Mariotte qui n'a pas de tablier.
Mais oui, j'en mets maintenant. J'en ai mis un justement hier à la télévision.
C'est le moment de Camille Combal.
Que j'adore, qui s'appelle Evelyne et que j'embrasse.
Pas de salon de l'agriculture, mais cette semaine, Europe 1 fait salon chez les agriculteurs. On sera en direct de la ferme de Châtenois-en-Seine. En Seine-et-Marne, spécialité locale. Débat autour du faux bio.
Oui.
Et il y aura quoi d'autre?
Demain, à la table des bons vivants, c'est le menu que vous venez d'annoncer. Absolument. On fera un débat sur le faux bio, sur la place des fermes auberges aussi dans notre monde actuel, parce que ce sont les grandes oubliées de la crise, les fermes auberges, parce qu'il y a activités de restauration et ils n'ont pas d'aide, donc on en parlera. Et nous serons avec Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, qui est très engagé dans le monde paysan. Édouard Bergeon.
Et moi, je vous rappelle la sortie il y a un an, exactement au moment du Salon de l'agriculture, on a sorti un film qui s'appelle Cyril agriculteur de Rodolphe Marconi, qui est le quotidien d'un agriculteur. Je vous jure, vous voyez ça, c'est édifiant, tout est dit avec très peu de mots, mais vous ne l'oublierez pas.
Merci beaucoup Laurent Mariotte et on salue la maman de Camille Combal qu'on a vue sur Instagram. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Né quelque part, c'est le nouvel ouvrage de Michel Halberstadt chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'elle cherche dans ce livre? Elle cherche les traces de la famille Halberstadt. Je ne vais pas dire si vous la trouvez, si vous ne la trouvez pas, comment vous la trouvez. Et en couverture du livre, Sigmund Freud avec sa fille, Sophie, qui avait épousé le photographe officiel de Freud, qui s'appelait Max Halberstadt. Vous-même, vous avez déjà été en analyse. Cette fascination pour Freud, est-ce que ça peut se manifester comme ceci?
J'ai jamais été en analyse, non.
Ça ne vous tente pas non plus?
Je ne crois pas en avoir ressenti le besoin, mais...
Même après avoir vu la série en thérapie d'Arte, qui connaît un succès fulgurant, et il y a même des gens qui ont appelé des psychanalystes pour se faire analyser après avoir vu la série. Vous l'avez vue, j'imagine?
Moi, j'avais vu l'américaine, je ne me suis pas encore lancée dans la française, mais bon, je suis amoureuse de Gabriel Byrne, donc le transfert pour le psy, je le comprends très bien.
In Treatment, ça s'appelle.
In Treatment,
voilà.
C'est ça.
En tant que productrice, c'est assez rare pour te signaler, vous dites que le succès de Netflix nous pendait au nez, notamment à cause de la chronologie des médias, et j'ai pas tout compris, expliqué.
Non, il n'y a pas que ça. Ce qui nous pendait au nez, c'est qu'avec la pandémie, ça allait absolument s'envoler. Non, le problème de la chronologie des médias, il est que les exploitants, ils veulent absolument avoir les films pendant des mois et des mois dans leur salle. Sauf qu'ils les gardent 3 semaines. Donc en fait, nous, au bout de trois semaines...
J'explique. Les exploitants les voudraient longtemps et les chaînes les voudraient tout de suite. Canal+ voilà. voudrait que ce délai soit raccourci.
Exactement.
Et
les exploitants disent non.
Et
mais
pourquoi
en même
votre
temps...
discours m'intéresse, je vais vous le dire, c'est que vous, vous êtes de l'autre côté, vous êtes du côté des exploitants, des distributeurs, des producteurs, et vous dites non, foutaise, trois semaines, ça suffit largement.
Ben, c'est pas qu'on le dit, c'est qu'on le voit dans les faits. C'est très très rare qu'un exploitant vous garde un film en première exclusivité plus de trois semaines. Au bout de trois semaines, généralement, vous passez à deux séances par jour, une séance par jour, une séance par semaine. C'est les faits, c'est ce qu'on constate. Or, les sondages, les études montrent qu'une fois que vous êtes marié et que vous avez un enfant, vous arrêtez d'aller au cinéma pendant à peu près 15 ans.
Ouais.
Bon. Et ben, les gens qui arrêtent d'aller au cinéma parce qu'ils ont un bébé et pas forcément le babysitter pour aller avec, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie de voir les nouveaux films. Et ben, on pourrait très bien imaginer qu'au bout de trois semaines, ils puissent, moyennant un prix à fixer, le regarder chez eux, du fond de leur canapé. Je suis sûre qu'ils le feraient. La seule chose, c'est que les exploitants disent non. Or, ils disent non, mais en même temps, ils ne nous laissent pas, nous, travailler nos films. Autre avantage de raccourcir ce délai, c'est que toute la pub, et je ne parle pas seulement de la pub payante, mais toute l'atmosphère autour du film, c'est-à-dire la critique, la presse,
je
le
comprends.
Bouche à oreille.
Vous pourriez en bénéficier.
On en bénéficierait, alors que trois ou quatre mois après, c'est fini. Il faut recommencer pour la sortie vidéo ou VOD. Donc tout ce système est un peu absurde.
Déclaration tonitruante de vous à Télérama, c'était il y a deux ans, en 2019. Netflix, je suis abonné, disiez-vous, et l'algorithme ne me propose que des séries, jamais de films. Netflix se fout du cinéma.
Ben Netflix s'en sert du cinéma. C'est-à-dire que c'est très bon pour leur pub de dire on a acheté Truffaut, on a acheté ci, on a acheté ça. Mais quand vous êtes sur Netflix, et ben pour le trouver, Truffaut, vous avez intérêt à savoir comment ça s'écrit, comment ça s'appelle et le titre du film.
T-R-U-F-O.
Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens d'un film de Soderbergh qu'il a fait pour Netflix, qui est sur le sport, ouais. Qui s'appelle High Flying, je ne sais plus comment. Mais si vous ne savez pas exactement comment ça s'appelle, vous ne le trouverez pas.
Vous voulez dire que l'algorithme ne vous le propose pas, combien même il aurait remarqué que vous êtes cinéphile.
Absolument. High Flying Bird, ça s'appelle. L'algorithme, il vous propose les films Netflix d'abord, ce qu'ils appellent les Netflix Originals, et après ils vous proposent ce qui les arrange, ce qu'ils ont envie. Je me souviens, on avait sorti un documentaire sur l'optimisation fiscale, et un des juges qui interviewait Amazon disait, alors c'est formidable, j'ai acheté un livre de cuisine et qu'est-ce qu'on m'a proposé? La biographie de Margaret Thatcher dans l'algorithme. Voilà, l'algorithme c'est ce qu'ils veulent évidemment.
Michel Halberstadt, un mot pour finir sur votre vie d'avant, juste pour vous situer, pour qui ne vous connaîtrait pas, Stanley Kubrick vous envoyait des fax, Robert De Niro est venu à votre mariage, et dans un livre de souvenirs vous citez un article de Libé à propos d'une conférence de presse d'Orson Welles, j'ouvre les guillemets, une conférence de presse, écrit Libé, insipide, perturbée par une conne assise par terre en tailleur qui a monopolisé la conversation. Et la conne, c'était
moi.
Voilà.
Bah, c'était le bon temps du journalisme.
C'était le bon temps, se faire traiter de conne. Nouvel ouvrage, né quelque part, signé Michel Halberstadt. C'est chez Albin Michel et on voit que vous travaillez dans le cinéma parce que les remerciements à la fin, c'est la longueur d'un générique de film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. On va parler de la nouvelle saison de l'émission Marié au premier regard sur M6. Nous en parlerons avec sa productrice, la directrice générale de Studio 89, Florence Duhaillot, et puis le chanteur Raphaël qui va en prime nous offrir un très beau live. C'est la sortie de son album Haute Fidélité, mais il sera là en direct et il chantera en direct. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien, je vous dis à lundi. Merci encore Michel Halberstadt.
Au revoir Philippe.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.